Pendant longtemps, une des raisons pour lesquelles je travaillais plus de 8 heures par jour, parfois même 10 heures, ouais, souvent même un peu plus, c'est parce que je culpabilisais de ne rien faire. Lorsque je ne travaille pas, je passe mon temps à lire, marcher, jouer ou tout simplement ne rien faire. Mais chaque fois, j'entends une petite voix dans ma tête qui m'explique que je devrais travailler au lieu de rester là, perdre mon temps à glander. C'est le genre de choses qui gâchait à chaque fois mes moments de détente. Alors j'écoutais cette petite voix et je retournais au boulot jusqu'à épuisement complet. Comme si je ne pouvais mériter mes moments de repos qu'après m'être tué à la tâche. Et encore, ce n'était pas toujours le cas, puisque dans ces cas-là, je m'en voulais de ne pas être assez endurant. Dis donc mon gars, si tu arrêtes de travailler après 10 heures par jour, c'est que manifestement, t'en veux pas assez pour réussir. Alors je retournais au travail. Il y a plusieurs éléments qui expliquent ce rapport au travail et au repos. C'est important de les passer rapidement en revue pour mieux comprendre comment cesser de culpabiliser quand on se repose. La première chose, c'est parce que nous avons grandi et élevé par une génération de travailleurs. Les standards autour de nous, c'était le travail jusqu'à épuisement. Je me souviens que mon père partait tôt le matin, rentrait tard le soir, toute la semaine. Et le week-end, il retournait travailler. Malheur pour moi s'il me surprenait à ne rien faire ou à rester allongé devant la télé, même un dimanche après-midi. Il y a toujours quelque chose à faire, me disait-il. Mais il n'y a pas que lui. Dans tous les travaux que j'ai eu l'occasion de faire, on me répétait qu'il y a toujours quelque chose à faire. C'est avec cette logique que je me retrouvais parfois à classer des documents déjà classés ou à balayer un sol en terre battue, simplement pour donner l'impression de ne pas me tourner les pouces. Même à l'école, lorsque je terminais un exercice en avance, plutôt que de me donner l'autorisation de sortir un roman pour le lire ou simplement quitter les cours plus tôt, le prof me disait d'en profiter pour prendre de l'avance sur les exercices suivants, voire même il me donnait des exercices supplémentaires. Se tourner les pouces, c'est très mal vu. Mais c'est parce que pendant longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, nous étions payés à l'heure. Donc il fallait la rentabiliser, cette heure. C'est une mentalité issue de la révolution industrielle et des usines. Même nos horaires de travail, que ce soit à l'école ou dans les entreprises, sont calqués sur celles des usines. 9h-17h, c'est la norme. Le problème est que ce sont des endroits où l'on demandait, où l'on demande encore, aux salariés de laisser leur cerveau à l'entrée de l'usine pour ne devenir qu'un rouage de la machine sur laquelle ils travaillent. Mais quand on se penche sur les artistes, les écrivains, les scientifiques et autres intellectuels les plus célèbres, on constate qu'ils travaillaient tous, sans exception, au maximum 4 heures par jour. Pas forcément 4 heures non-stop, souvent ils travaillaient par blocs de 90 minutes, faisaient une longue pause et travaillaient à nouveau 90 minutes. Victor Hugo n'écrivait que 2 heures par jour, Stephen King n'écrit que 4 heures par jour, Charles Darwin ne travaillait que 4 heures par jour lui aussi. La liste d'intellectuels qui ne travaillent ou travaillaient seulement 4 heures par jour, parfois moins, elle est indécente. Lorsqu'on exerce un travail intellectuel, non seulement on ne peut être productif que 4 heures par jour au maximum, mais en plus de ça, le repos est plus que nécessaire, il est vital. Les longues marches, les siestes, les discussions entre amis ou entre pairs, tout ça, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour stimuler notre créativité, pour générer de nouvelles idées. La preuve, c'est pendant la douche que l'on se met tous à avoir des éclairs de lucidité, des solutions à des problèmes sur lesquels on bloque depuis des semaines, simplement parce que on fout la paix à notre cerveau pendant 5 minutes et on le laisse bosser. Donc si on souhaite arrêter de culpabiliser, de ne pas travailler, il faut comprendre plusieurs choses. Déjà, le repos, ce n'est pas l'inverse du travail. Le repos est un complément au travail, comme le yin et le yang. C'est pendant nos moments de repos que notre cerveau peut résoudre des problèmes complexes. C'est pendant ces moments qu'il génère de nouvelles idées. Plus on se repose, plus on le laisse travailler et plus il est efficace. Travailler, finalement, c'est lui apporter la matière première qu'il va pouvoir digérer ensuite dans son coin. Deuxième chose, on doit dissocier notre temps de travail de l'argent. Il faut plutôt réfléchir en termes de résultats, de la valeur que l'on apporte. Associer argent gagné à temps de travail, c'est conserver une mentalité d'employé d'usine. Il faut plutôt se concentrer sur la valeur qu'on apporte à la fin de la journée. Surtout lorsqu'on travaille à notre compte ou finalement on peut difficilement se payer à l'heure. Je dirais même qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur le résultat, mais nos efforts quotidiens. Parfois, il nous faudra des mois pour obtenir le résultat que l'on souhaite. C'est un temps long. Alors il faut se concentrer sur la pierre qu'on apporte tous les jours à l'édifice. Tous les efforts quotidiens que l'on fait et qui nous mènent toujours un peu plus vers le résultat que l'on souhaite. Ce qui peut nous aider à nous concentrer sur les efforts quotidiens plutôt que les résultats, c'est de tenir une « done list », une liste de choses que l'on a fait dans la journée. Tous les soirs, on se prend 5 minutes pour noter tout ce qu'on a fait de notre journée. C'est à ce moment-là que nous pouvons prendre conscience que « ouais, la vache, on a bien bossé en fait aujourd'hui ». Parce que notre cerveau a une sale manie d'oublier tout ce qu'il a fait. Il préfère se rappeler de tout ce qu'on n'a pas fait ou tout ce qu'il nous reste à faire. Donc lister toutes les tâches et choses terminées dans la journée, c'est un bon moyen de le rappeler à l'ordre et de lui remettre les idées en place. Enfin, mon dernier conseil, planifier notre journée du lendemain. Encore une fois, simplement parce que notre cerveau garde en tête toutes les choses non terminées ou en cours. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. L'effet Zeigarnik signifie qu'il oublie ce qui est terminé et garde en mémoire tout ce qui est inachevé. Alors forcément, quand on se repose, on continue de faire une fixette sur tout ce qui nous reste à faire. Le fait de planifier la journée du lendemain, ça permet de le calmer. Un peu comme un enfant capricieux à qui on dit « Hey, si tu me fiches la paix 5 minutes pendant que je fais une sieste, promis quand je me réveille, t'auras une glace. » Là, c'est plus ou moins le même principe. C'est une façon de lui dire « Hey, t'inquiète, on va le faire demain. Regarde, c'est déjà noté sur mon agenda. J'ai bloqué un créneau rien que pour cette tâche. » Lui sera content et il va pouvoir penser à autre chose. Et vous, vous pourrez vous reposer sans culpabiliser.